Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Et les experts du jour, ils vont avoir beaucoup de grains à moudre. Nous allons aborder les thématiques suivantes. Prenez par exemple les coalitions inflationnistes à l'Assemblée, puisque manifestement les majorités pour voter la loi pouvoir d'achat se font sur le dépenser. Plus RTE qui met en garde contre l'envolée des prix de gros de l'électricité. Jusqu'où ça va aller? Et puis... qu'est-ce qu'on fait après le 1er janvier 2023 et que devient le bouclier tarifaire? Et puis évidemment, tout derrière tout ça, il y a la question de la sobriété énergétique. Quelle trajectoire, quels efforts pour qui? Le FMI qui revoit en baisse ses prévisions, la récession est-elle inévitable? Amazon qui augmente ses abonnements à Amazon Prime de 43%, est-ce que c'est une démonstration de force ou un aveu de faiblesse? Et puis quand même une interrogation sur l'Europe avec encore les nouvelles solidarités qui vont se créer autour de la pénurie de gaz. Est-ce que l'Europe est le continent le plus affaibli de toutes les péripéties que nous avons connues depuis 3 ans? Nos 3 experts du jour pour discuter de ces thèmes. Fergan Aziari, bonjour.
Bonjour.
Fergan, vous êtes directeur général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous avez publié, enfin c'est votre dernier livre, Les écologistes contre la modernité. C'est aux éditions Les Presses de la Cité. André Lezegrouk-Pietri, bonjour André.
Bonjour Emmanuel.
Fondateur du fonds Acapital, vous êtes président de JEDI, la Joint European Disruptive Initiative, c'est l'agence européenne d'innovation de rupture, c'est notre DARPA européenne. Voilà. Et puis Robin Rivaton. Bonjour Robin.
Bonjour.
Président de Stonal, fondateur de Real Estate. Vous êtes directeur d'investissement chez IDinvest, aussi membre du conseil scientifique de la Fondapol. Messieurs, quand même votre réaction après le vote de cette nuit sur la loi pouvoir d'achat. Alors on voit que des coalitions se sont formées, mais alors elles se forment toujours sur le dépenser plus. Robin Rivaton. Sur les retraites, sur l'aide au fuel, celui qui en met un petit peu plus, il emporte le morceau.
Bah, le dénominateur commun, effectivement, le plus facile à trouver entre des partis qui n'ont a priori pas de lien, ou en tout cas qui n'auraient pas de proximité idéologique, c'est celui de la dépense, et encore plus de la défense catégorielle, puisqu'elle leur permet de revenir avec des médailles auprès de leurs électorats respectifs pour dire que ici ils ont défendu telle population, ici telle population. Mmh. Parfois en contradiction avec même les messages de politique globale qu'ils prétendent défendre. Quand on voit que la coalition dans laquelle est inscrit le Parti écologiste défend l'usage du fuel, on en arrive quand même à se poser des questions sur la cohérence idéologique de ce parti-là. Donc on voit bien effectivement que c'est une inflation des dépenses, et ce qui concrétise ce qu'on pressentait depuis des années, c'est que l'habitude de l'argent magique va être très très difficile à faire disparaître, parce que tout le monde est rentré dans un mécanisme où je pense qu'on pressent que ça ne pourra pas durer plus longtemps et qu'on se dit qu'on va essayer de pressurer la bête jusqu'au bout
pour obtenir le maximum. Une espèce de fuite en avant.
Exactement, avant que la musique ne s'arrête réellement, c'est-à-dire assez rapidement.
André Lezegrouk-Pietri, est-ce qu'on s'engage, au vu de la configuration politique actuelle, vers un quinquennat de dépenser plus et de réformer moins?
Je pense qu'on est surtout dans un quinquennat où on vient de voir disparaître la notion d'intérêt général. Je crois que Robin l'a dit, chacun défend ses électorats. Chez nous en Corse, on dirait chacun défend son clan. Et c'est épouvantable. Et on a beaucoup mis en avant le sujet consensus, coalition, en se disant on va essayer de s'inspirer de ce que font les Allemands. Bah, la petite différence avec les Allemands, c'est qu'ils essayent d'avoir une vision quand même assez globale au début, c'est pas un quinquennat, mais au début d'une coalition, pour voir combien... est-ce que tout ça peut rentrer dans une épure? Donc le deuxième chose, c'est qu'en plus, on est rentré dans un monde de court terme absolu où on va accumuler les choses, mais sans avoir une vision quelconque. Oui, pour moi, c'est la mort de la démocratie, ce qui est en train de se passer.
Ah oui, parce que la coalition à l'allemande, c'est on se met d'accord sur un programme, mais après, on partage tout le programme. La réalité...
Alors, c'est pas idéal. Hein. On le voit bien en ce moment. La coalition allemande est en train de faire un virage à 90 ou à 180 degrés même par rapport à ce qui avait été prévu en septembre dernier. Mais ça, c'est événement oblige. Mais aujourd'hui, on a le pire de tout. On a les catégories. On a finalement que des mesures populistes. Donc, on a quand même la quasi-totalité de nos partis politiques aujourd'hui qui sont en train de devenir populistes, parce que c'est vraiment la définition, hein, on sert ses intérêts catégoriels. Et troisième chose, on est dans le monde du court terme.
Faire gamme.
Oui, je vais être assez consensuel avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on a effectivement une espèce de coalition de consensus, c'est-à-dire que tout le monde communie dans la démagogie la plus totale, avec cette conviction que la dépense publique serait l'alpha et l'oméga de la prospérité d'une nation, ce qui est faux, puisque si c'était le cas, la France serait depuis très longtemps en passe d'être le pays le plus riche de la planète, et on voit bien que c'est pas ce qui se passe. Donc on ne comprend pas, parce que bon, l'objectif de redonner du pouvoir d'achat est tout à fait noble, tout le monde le partage. Le problème, c'est que nous avons oublié d'où venait le pouvoir d'achat authentiquement. Le pouvoir d'achat vient de la production, vient de la richesse, vient de la croissance, vient de l'épargne, vient de l'investissement, vient du travail, des gains de productivité, de l'innovation. Tout ça, plus personne n'en parle. C'est-à-dire que, et je trouve que c'est très révélateur finalement d'un pays qui a renoncé à toute ambition. C'est-à-dire que faute de discuter des conditions d'une prospérité générale, nous gérons la pénurie, parce que finalement les tractations, la politique que nous voyons, c'est ça, c'est, nous sommes dans la politique de la gestion de la pénurie, on va distribuer des miettes à telle ou telle catégorie, sans là encore penser aux conditions d'une prospérité globale, avec une fuite en avant de la dépense publique qui est mortifère. Mais le drame, en fait, de ce scénario-là, c'est que le problème de la dépense publique, c'est que ses conséquences néfastes ne sont visibles que sur le long terme. C'est-à-dire que sur le court terme, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on arrive à acheter comme ça la paix sociale, mais on ne voit pas sur le long terme tous les coûts que cette dépense publique induit, c'est-à-dire le fait qu'elle soit financée par un impôt confiscatoire qui, du coup, nuit aux gains de productivité sur le long terme, le fait qu'elle détourne les capitaux des investissements productifs dans les innovations de rupture, etc. Et en fait, la France s'engage progressivement dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de scénario argentin. C'est quoi le scénario argentin ? C'est pas un effondrement global de l'économie soudain, moi je ne crois pas à la collapsologie. En revanche, c'est le déclin relatif d'une nation qui, jadis, figurait à la tête des pays développés, puisque l'Argentine, c'était ça au début du XXe siècle. C'était l'un des pays les plus riches de la planète.
Septième puissance économique mondiale.
Exactement.
Dans les années 30.
Le niveau de vie à Buenos Aires était réputé parfois plus élevé que dans la plupart des capitales européennes. Et au fil du temps, ce pays est sorti de l'histoire. Ça a pris des décennies, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais petit à petit, ce pays a connu un déclin de sa croissance économique telle qu'ils se sont réveillés 50 ans plus tard, en finalement réalisant qu'ils n'ont parcouru que 3 mètres, quand d'autres puissances rivales ont eu le temps de faire 3 fois le tour du monde. Et je pense que c'est ce qui attend malheureusement la France. Le problème, c'est que c'est un problème de long terme, et le long terme, la politique s'en moque. Keynes disait, sur le long terme, on est tous morts. Et bien, il a un peu raison, c'est-à-dire que le long terme n'étant pas une préoccupation électorale, forte, chacun aujourd'hui se plaît à verser dans une démagogie dépensière qui n'apportera rien de bon à notre pays.
Ah, petite réaction là-dessus, messieurs. Là, le destin de la France et le destin de l'Argentine. Vous êtes si pessimiste que ça, Robin ?
Non, mais j'ai pas envie d'être pessimiste. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit les facteurs de long terme et qu'on les étudie les uns après les autres, on peut être que inquiet, tout simplement, parce que on a parlé, le mot clé aujourd'hui, c'est les gains de productivité, c'est la capacité pour chaque salarié dans un pays à produire plus. Pourquoi ? Parce que la population, elle, va se réduire. La population active, on le sait, c'est des trajectoires de très long terme, la population va se réduire. Donc la seule solution, c'est que les gens qui soient au travail produisent plus. Aujourd'hui, on a une école, une éducation qui malheureusement nous amène dans les tréfonds, les abîmes des classements internationaux. On sait bien qu'on va produire moins que nos voisins si les Français sont moins qualifiés. Et donc, si on projette sur le très long terme, on ne peut pas être très rassuré. Et la capacité à mener des réformes d'ampleur, mener des transformations du pays, elle va être de plus en plus limitée par tout cet endettement qui nous pèse. L'endettement, encore une fois, les ratios et tout ça, ça n'a aucune importance. On ne regarde pas la situation économique d'un pays avec des ratios. La réalité, c'est est-ce que tout ça nous donne des marges de manœuvre pour un moment renverser la table ? Et renverser la table, c'est coûteux. Dans aucun pays, il n'y a aucun pays qui a fait des grandes réformes où ça n'a pas coûté. Ça n'existe pas. Les grandes réformes, ça coûte. Il faut un peu indemniser les perdants. Il faut motiver les futurs gagnants. Il faut transformer les institutions. Il y a plein de coûts quand on fait une
transformation. Mais est-ce qu'il y a des pays qui ont réalisé des grandes réformes sans y être absolument contraints, c'est-à-dire sans avoir l'épée dans le dos ? Est-ce qu'on a des exemples de pays qui réussissent leur mutation et qui sont des démocraties ? et qui réussissent leur mutation sans qu'il y ait une urgence derrière.
Très peu. C'est ce qui s'est toujours vu, c'est qu'on préfère la révolution à l'évolution. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment d'avoir cette pression. Et les exemples, que ce soit les pays scandinaves ou que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande dans les années 80, tous ces pays-là ont subi une énorme pression sur la dette extérieure qui à un moment les a mis en situation de quasi-faillite ou en tout cas de squeeze sur les liquidités et qui pousse à prendre des décisions d'ampleur puisqu'elle crée un consensus, en tout cas elle transforme un peu la plasticité des personnes. Le gros problème, c'est que on aurait pu avoir la crise Covid a été pour moi une occasion manquée parce que pendant la crise Covid, on a eu tout a changé, c'est-à-dire tout d'un coup beaucoup de repères qu'on avait se sont effondrés et donc la plasticité des individus aurait pu être améliorée. Je donne juste un exemple, l'éducation nationale. C'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à changer puisque en fait vous arrêtez en juillet, demain, fin juin, et au début septembre, il faut bien que vous ayez des classes avec des gens pour accueillir les enfants. Rentrée 2020, pour la première fois, il n'y a pas de rentrée 2020. Donc c'était l'occasion de réécrire, de partir un peu d'une page blanche. Est-ce qu'on l'a utilisé ? Que dalle, on n'a rien fait du tout et au final on reprend ce cycle où on voit bien qu'il n'y a aucune évolution. Donc pour moi, on a eu quand même quelques occasions de faire cette transformation.
Pendant le Covid, les Gilets jaunes avant, c'était aussi une occasion aussi de... André.
Oui, et alors moi je partage pas le point de vue qu'il faut forcément une révolution. Je crains qu'on va en avoir une chez nous, parce que semble-t-il c'est le destin de notre histoire et on a aujourd'hui à la tête de notre pays des gens qui avaient quand même promis. Le pire en fait, c'est pas des gens qui ne font pas, c'est des gens qui promettent et qui ne font pas. Et aujourd'hui, on a quand même ça. On nous avait promis une vision long terme, on nous avait promis une politique de l'impact. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans le court-termisme. On l'a bien vu dans cette espèce d'entre-deux, là, entre les législatives et la présidentielle, où on avait l'impression que voilà, l'État s'était effiloché. Et deuxième chose, ben, on se rend compte que sur la réforme de l'État, la réforme de l'éducation, la réforme de l'innovation... Enfin, regardez aujourd'hui, et pourtant j'ai beaucoup d'admiration pour cette ministre, mais regardez la seule mesure qu'on a été capable d'entendre dans les deux dernières semaines sur l'énergie, qui est quand même le sujet, c'est il faut que les magasins climatisés ferment leurs portes. Mais c'est ridicule. C'est peut-être important.
Attendez, André.
C'est une révolution
par charité,
qu'il faut parler.
Par charité, on passera la liste des mesures recommandées aux administrations, qui doit être la Xème directive.
Mais évidemment, vous savez ce qui va se passer, c'est que les administrations, elles vont faire comme aujourd'hui les piscines municipales. Vous savez, ça me fait penser à ces équipementiers automobiles à qui les donneurs d'ordre disaient il faut réduire les coûts de 2%. Si vous demandez des trucs incrémentaux, mais que vous ne lâchez pas la bride et que vous ne permettez pas localement d'avoir des vraies initiatives, c'est très difficile d'atteindre les 2%. Mais si vous soudain donnez du pouvoir localement et que les gens puissent trouver leur propre solution, mais ça c'est incompatible avec notre système et encore pire avec le logiciel des gens qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays. Il faut casser les grandes administrations centrales qui aujourd'hui, et c'est pas du tout être anti-étatique, au contraire, je veux un État qui soit efficace, mais aujourd'hui on a un État qui pense avoir du pouvoir et qui n'en a plus du tout. Et donc, moi, je suis extrêmement inquiet. Par contre, moi, j'ai vu des pays, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que les États-Unis ont réussi une certaine forme de révolution, notamment sur tout ce qui est transition vers l'innovation. Et ce n'est pas parce que c'est l'État qui l'a fait, mais c'est qu'il y a eu un bon partenariat entre public et privé. L'Allemagne a quand même réussi une certaine révolution de son marché du travail, alors qu'elle n'était pas extrêmement forcée de le faire. Oui, elle avait un problème de compétitivité, mais elle avait encore des marges de manœuvre en termes de dette, etc. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas aussi inquiet que Ferzan, parce que je pense qu'on a encore les talents. C'est-à-dire que la chance qu'on a, et c'est voilà, que plus personne ne veut aller en Chine.
Il n'y a plus le climat culturel, c'est-à-dire que...
Et les États-Unis, dans un an, on risque de se retrouver avec un...
Je me permets juste une petite parenthèse, parce que c'est un débat que j'aime bien. Robin, vous citiez tout à l'heure Nouvelle-Zélande, etc. Moi, j'ai une conviction, c'est que ce qui est possible dans les petits pays n'est pas possible dans les grands. Il y a deux écoles hein, parmi les économistes. Il y a ceux qui vous disent bah non, c'est pas vrai, parce que tous les problèmes sont proportionnels, donc il n'y a pas de raison que ce qui marche dans les petits pays. Moi, je pense que c'est exponentiel. Et je pense que ce qui est possible dans un pays de 6-8 millions d'habitants, comme réforme, comme adaptabilité, n'est pas possible dans les grands pays, ce qui nous fait un handicap supplémentaire, non ?
Ce qui pousse à la décentralisation. C'est-à-dire que si vous avez un pays de 36 millions qui ne marche pas, vous faites 10 blocs de 6 millions et vous verrez que vous leur donnez des pouvoirs. fédéraux et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Et c'est ce qui se passe.
C'est pas un hasard si la Suisse, en effet, est l'un des pays les plus stables et plus prospères d'Europe, parce que c'est un pays qui est très décentralisé, où il y a une intense concurrence institutionnelle, politique, réglementaire, fiscale entre cantons. Et donc la concurrence, on sait que c'est source d'émulation, c'est source de discipline. Et donc c'est l'exact contraire de notre système jacobin, où il n'y a strictement aucune émulation entre politique publique parce que tout part de Paris. Et donc il n'y a pas de force de rappel. La démocratie n'est pas une force de rappel suffisante. Il faut de la concurrence institutionnelle et tout ce qui va vers de la décentralisation pour créer plus d'émulation va dans le bon sens, mais effectivement, ça ne fait pas partie du logiciel dominant. Vous posiez la question tout à l'heure, Emmanuel, de savoir si c'est au bord du gouffre que les pays engagent nécessairement les réformes. Moi, je ne pense pas que ce soit les circonstances. Je pense que c'est le climat culturel, parce que vous avez des précédents comme les pays d'Amérique latine qui vous montrent que malgré toutes les circonstances les plus défavorables, on persiste dans l'erreur. Vous voyez, un pays comme l'Argentine que j'ai cité tout à l'heure, ça fait des décennies que ce pays-là sont dans la démagogie électoraliste et ça ne bouge pas, en fait. C'est-à-dire que tant que le mal n'est pas bien perçu, tant que les causes du mal ne sont pas perçues, en fait, les attitudes ne changent pas indépendamment. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de force de rappel liée aux circonstances. Le Venezuela, les pays argentins vous montrent que ça peut continuer à s'enfoncer toujours plus loin tant qu'il n'y a pas une révolution culturelle des mentalités. Or, malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui la révolution des mentalités soit faite en France. C'est-à-dire qu'il y a un consensus en France, c'est-à-dire que le parti unique, c'est le dirigisme, c'est le dépenser plus. Les seuls clivages sont en réalité très, très paramétriques, c'est-à-dire qu'on va discuter sur comment flécher la dépense de telle ou telle manière, mais il n'y a pas en tout cas de consensus global en France sur la nécessité même de réformer l'État, les administrations, et en l'absence de consensus, je crains qu'on soit condamné à cette fuite en avant, et que l'on continue finalement à blâmer et à mettre nos problèmes sur le dos d'un ultralibéralisme, et même si nous sommes la France le pays le plus dépensé, le plus fiscalisé du monde développé, cette réalité comptable...
Le dernier grand pays socialiste du monde.
Cette réalité comptable indiffère les idéologues qui ont un agenda et qui se fichent complètement de la réalité économique et sociale tant que leur idéologie, tant qu'ils sont convaincus que leur idéologie est la plus vertueuse raisons complètement débiles.
Les amis, je ne pensais pas qu'on arriverait. Vous m'avez bien plombé au moral, mais j'avais envie de vous dire, cette discussion qui est partie de la loi pouvoir d'achat, si vous avez aimé cette discussion sur la loi pouvoir d'achat, vous allez adorer la discussion sur le budget 2023. Et notamment à partir de ce qu'a souligné RTE, le gestionnaire du réseau, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui note le quasi doublement des prix de l'électricité à terme sur le marché de gros cet hiver. C'est-à-dire qu'en gros, au mois de juin, on achetait l'électricité pour cet hiver à 500 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, c'est 800 euros le mégawattheure. Vous me voyez venir, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit aux Français, vous inquiétez pas, on va vous protéger contre tout ça, que ces boucliers tarifaires sont censés arriver à échéance en fin d'année, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire, André ?
Je crains qu'on puisse rien faire. Le gouvernement peut rien faire contre ça. Moi, je suis terrifié. Au-delà de l'aspect logiciel, je pense qu'on a aussi un problème de modernité. Linky, 6 milliards d'euros. Là, en termes de punchline, rendez-nous cet argent. À quoi ça sert ? Si on n'est pas capable d'utiliser les outils du digital pour identifier ceux qui en ont vraiment besoin de ce bouclier, je veux dire, où est-ce qu'on est ? Je veux dire, on fait des mesures parce qu'on considère que c'est trop compliqué, mais on a du... Ce que je veux dire là,
oui, c'est que Linky devrait nous permettre...
Mais devrait permettre, d'effacer la demande quand on en a besoin, éventuellement donner des primes à ceux qui sont plus vertueux, d'exercer, comme il se passe dans certains pays, des petites pressions psychologiques positives qui est du style...
Ça devrait être un outil de gestion dynamique.
Ton voisin a dépensé 10 ou 20% de moins d'énergie, donc absolument. Il va y avoir une petite concurrence positive.
Ça marche pas mal.
Que mon voisin. C'est comme ça que ça marche. Non. La seule chose qu'on sait faire, c'est 30 centimes pour tout le monde ou 18 centimes pour tout le monde, ce qui coûte un argent phénoménal.
C'est incohérent avec les objectifs de sobriété, surtout.
Totalement incohérent avec la sobriété. Et le côté protéger les Français, et en plus je pense que même parmi les gens les plus défavorisés, c'est véritablement infantiliser les gens, c'est ne pas les prendre au sérieux, et je crains qu'on fait le lit encore plus du populisme. Moi je ne comprends pas pourquoi, dans nos administrations, on n'utilise pas plus le digital pour justement individualiser, personnalisé, donner l'argent là où on en a besoin. Et pas à des gens comme nous qui, je pense, n'ont pas besoin de ces 30 centimes.
Parce qu'on a un problème avec les données en France. C'est-à-dire qu'on a un trauma sur la confidentialité de la donnée. Et ce sujet-là, en Allemagne, par exemple, les institutionnels du logement en Allemagne, ils font baisser le chauffage automatiquement dans les logements. En France, c'est même pas une idée qui est même pas évoquée dans le débat public. Si vous faites ça, déclenche. Là, vous avez tout un ensemble de forces de rappel, d'associations et autres qui vont monter au créneau. Sur la partie isoler les comptes, isoler les personnes pour trouver les bonnes personnes qu'il faut aider. On peut totalement le faire avec l'accès aux comptes bancaires. C'est très très simple. On sait construire ces algorithmes d'un basique absolu. Il n'y a pas d'intelligence là derrière. C'est juste avoir accès à la donnée. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est considéré comme un trauma. On a un problème avec la CNIL dans ce pays, on ne va pas revenir sur tous les problèmes, toutes les listes des problèmes dans ce pays, mais aujourd'hui, on a fait passer la pseudo-défense des données personnelles avant toute mesure d'efficacité.
J'ai envie de vous croire, Robin, mais je crains que ce soit plus une question de compétence. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, au niveau ministériel, on comprenne ce que vous dites. C'est qu'on n'y pense même pas.
On se réfugie derrière la donnée.
Parce que l'Allemagne a un sujet de politique des données encore plus sensible, comme vous le savez, que la France. Alors oui, effectivement, on a un problème avec la CNIL. De toute façon, on a un problème avec la fragmentation des organismes de protection de données, la vie privée et des données en Europe. Mais je crains qu'on ait un problème. On n'y pense pas. Le logiciel est automatiquement de faire une mesure, une loi, auquel on donnera d'ailleurs son nom.
Pour tout le monde.
C'est terrible.
Messieurs, on continue notre discussion après la pause. On se retrouvera avec Fergan Aziari, André Lececroc-Pietri et Robin Rivaton. On va continuer à parler, effectivement, de l'énergie, comment on fait après la fin de l'année, et puis surtout, plus largement, après, de notre trajectoire de sobriété énergétique. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Les experts du jour, Fergan Aziari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, André Lececroc-Pietri, fondateur du fonds à capital, président de Jedi, allez, je fais simple, c'est la DARPA européenne, André, et puis Romain Rivaton, président de Stonal, fondateur de Real Estate. Messieurs, nous étions en train de discuter, donc on se disait, la loi pouvoir d'achat, ça a été compliqué, on a lâché beaucoup d'argent, et puis on arrive là avec des prévisions de prix d'électricité stratosphériques pour cet hiver, des boucliers qui s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Fergan?
Et en fait, je vais encore rejoindre ce que disaient mes interlocuteurs. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, l'augmentation du prix de l'énergie, c'est une conséquence logique de la pénurie qui s'annonce. Je veux dire, c'est le rôle du système des prix de renchérir l'usage d'une ressource rare dès lors que celle-ci se raréfie. Et c'est là d'ailleurs où on mesure l'incohérence des politiques qui ont été jusque la mise en œuvre, puisqu'on a décrété un bouclier tarifaire qui finalement a consisté à casser le thermomètre. On a dit aux gens, voilà, il y a une réalité. Cette réalité, je vais vous en protéger. Elle n'existe pas, la réalité. Bon, et quelques mois plus tard, on va revenir dessus, pour rationner l'énergie. C'est-à-dire que là, on prépare des mesures de délestage, des mesures de rationnement, des coupures d'électricité ciblées. Enfin, on prépare les esprits quand même à des politiques de rationnement.
Enfin, fondamentalement, quand un marché ne s'ajuste pas par les prix, puisqu'on refuse qu'il s'ajuste par les prix.
Oui, c'est exactement ça. On refuse effectivement que le marché s'ajuste par les prix, alors même que c'est son rôle. Le marché, son rôle, c'est bien de réguler la rareté par l'augmentation des prix, faire en sorte que l'augmentation des prix invite les usagers et les industriels à la modération, puisque dès lors qu'une ressource coûte plus cher, eh bien vous êtes invité vous-même à en consommer moins, afin de réserver la ressource aux usages les plus valorisés. C'est le rôle des systèmes de prix. On n'a pas voulu effectivement mettre en œuvre ces mécanismes de prix, donc on va décréter des coupures de manière politique, de manière arbitraire, avec là encore des risques de couper des industries qui seraient peut-être essentielles, enfin je ne sais pas. Donc ça, c'est inévitable. C'est-à-dire qu'on se dirige vraisemblablement vers ça. Maintenant, il faut voir, je crois, à long terme et dire qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus subir cette situation. Et le diagnostic, il faut le poser, c'est que depuis des décennies, l'Europe organise le sabotage de son système électrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé de fermer des moyens énergétiques pilotables pour les remplacer par des moulins à vent qui ne sont disponibles que, vous le savez, que très rarement en raison de l'intermittence et de la faible puissance. L'Allemagne, là-dessus, fait office du pays le plus stupide en la matière. C'est vraiment le boulet du système énergétique européen. La France s'est tirée une balle dans le pied en fermant la centrale de Fessenheim. Mais c'est une tendance, celui qui est globale. Il y a quelques mois, avec un ingénieur belge qui s'appelle Philippe Charlez, on a écrit une tribune dans Le Figaro. On avait vu que depuis 20 ans, 5000 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le solaire. 5000 milliards de dollars sur 20 ans, pour quel résultat ? Pour seulement 12% de l'électricité mondiale. On ne va pas me faire croire que c'était là le choix le plus efficient. On avait fait un calcul, si ces 5000 milliards de dollars avaient été investis dans l'énergie décarbonée la plus efficace qui existe à ce jour, qui est le nucléaire, c'est plus la moitié de l'électricité mondiale qu'on aurait pu décarboner, tout en assurant à l'échelle du continent et à l'échelle internationale, une plus grande sécurité énergétique. Donc, regarder dans le rétroviseur, c'est aussi utile pour comprendre ce qu'on a fait de mal. On a perdu 20 ans à, en effet, dilapider des sommes faramineuses dans des sources d'énergie qui sont non fiables. Il est toujours possible de rectifier le tir pour cesser de faire des bêtises et assurer aux Européens et à l'ensemble de l'humanité une énergie fiable et décarbonée.
Oui, mais pour ça, André Robin, il faudrait que le logiciel politique y change. Or, on voit bien, d'ailleurs je ne sais pas si un jour on fera le procès des écolos anti-nucléaires, parce que quand même, quand on regarde ce que ça nous coûte depuis la fermeture de Superphénix, quand Lionel Jospin veut faire plaisir à Dominique Voynet pour des sombres combinaisons politiques de court terme, quand on ferme Fessenheim, etc., là encore, pour des raisons bassement politiques, enfin, je veux dire, André, vous parliez du logiciel de nos politiques,
tout petit peu moins dur que Verzan, parce que je pense que sur le nucléaire, d'abord, on peut... Le sujet dépasse le sujet purement économique. Deuxième chose, quand vous regardez le Danemark, qui aujourd'hui a plus de 50% de son mix énergétique qui vient du renouvelable, c'est pas du tout le désastre dont vous parlez. Le sujet de l'Allemagne, que je connais relativement bien, d'abord, ça a profité à certains. Ça a profité notamment grandement à la Chine, dont l'industrie a beaucoup bénéficié des achats de panneaux photovoltaïques qui, je rappelle, à 99,5% sont produits là-bas. C'est juste qu'ils ont mis en place un système de prix garanti. Les fameux feed-in tarifs ont coûté une fortune, entre 40 et 50 milliards par an au budget allemand. Pour quel résultat, effectivement. L'autre chose en termes de retour d'expérience, parce qu'avant qu'on se replonge sur le nucléaire, pour être crédible, il faut aussi être honnête. Aujourd'hui, par exemple, le sujet de l'EPR, et je pense que je ne vais pas me faire des amis, donc je vais continuer sur la lignée de la première partie de ce... L'EPR, aujourd'hui, est une catastrophe industrielle. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Il n'y a aucun EPR qu'on a fait qui n'a pas un doublement ou un triplement du budget initial et qui a pris moins de 10 ou 15 ans à être mis en place. Oui, qui aujourd'hui apparemment a certaines fuites radioactives où aujourd'hui nos tolérances sont peut-être un petit peu les mêmes. Mais effectivement, vous avez raison, mais nous on n'a pas la capacité d'exécution des Chinois, donc faut être aussi honnête vis-à-vis de ça. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait sur la suite des événements ? Moi je vois aujourd'hui que les Américains, les Italiens investissent sur des sujets comme la fusion nucléaire, comme les petits réacteurs nucléaires. C'était un des grands sujets de France 2030, là, qu'on a annoncé avec force trémolo en novembre dernier. Où est-ce qu'on en est ? On a réussi en 313 jours à créer un vaccin contre le Covid. Pourquoi faut-il 10 ans pour créer la future génération de réacteurs nucléaires ?
Ça, c'est bien, mais il y a tout un tas d'autres possibilités. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, aussi, vous parliez de petits réacteurs nucléaires, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire tout un tas de petits barrages, par exemple, puisqu'on est les spécialistes des très grands barrages, il y aurait aussi possibilité...
On a un sujet dans le logiciel, c'est que le temps... Razan parlait tout à l'heure de la politique du budget. Aujourd'hui, on considère qu'une bonne politique en France, mais en Europe, c'est la même chose. Hein. Quand j'entends Mme von der Leyen parler de ses milliards, on a toujours l'impression que la planche à billets fonctionne à la Commission européenne comme à Francfort. C'est un peu étonnant. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces milliards et avec quelle rapidité on les déploie. Aujourd'hui, le temps est tout aussi important que l'argent. Là, pour le coup, le président de la République avait bien vu, à nouveau, quand il annonçait France 2030, en disant une bonne décision ou une bonne invention 6 mois trop tard ne vaut rien. Et bien, effectivement, il faudrait que dans nos politiques publiques, dans notre logiciel, le sujet du temps. Donc, quand je vois effectivement qu'on laisse maintenant les députés en vacances jusqu'au 3 octobre, je ne comprends pas. On est dans une urgence absolue. Pour moi, la Chambre des députés, ils viennent d'être élus, ils sont en pleine forme, pour la moitié d'entre eux, puisqu'ils sont nouveaux, eh bien, qui bossent jour et nuit pour essayer de sortir de la situation. Enfin, est-ce qu'on dit la vérité aux Français ? On va avoir une crise industrielle et économique en Allemagne d'une ampleur considérable. Quand BASF ou d'autres chimistes vont licencier 10, 20, 30 000 personnes parce qu'ils ne peuvent plus produire de la chimie, parce qu'ils n'ont plus de gaz russe. Que l'industrie chimique alimente tout. les peintures, les plastiques, l'automobile, l'aéronautique, que ça va se répercuter dans nos chaînes de production. On l'a bien vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Qu'on va devoir partager notre gaz avec les Allemands, ce qui était une bombe à fragmentation pour la cohésion européenne. Est-ce qu'on dit ça? Non. Ce qu'on dit, c'est couper vos Wi-Fi et fermer la porte des magasins climatisés. Je pense qu'il faut être beaucoup plus... Je revoyais le film Churchill. J'attends de mon gouvernement aujourd'hui qu'il prédise pour les prochains mois du sang, des larmes, de la sueur et rien d'autre. Et je pense aujourd'hui les Français sont prêts à l'entendre. Et il faut que les plus fragiles soient protégés. Je n'entends rien de tout ça. On va protéger tout le monde. Tout va bien, Madame la Marquise. La catastrophe, moi je pense, elle est très inquiétante pour les prochains mois. Ouais.
Romain Ribaton.
Ouais, on a brassé beaucoup de sujets, moi, sur la politique énergétique européenne. Le problème, c'est que c'est pas un monolithe. Les 5000 milliards, ils n'ont pas été investis par une personne. C'est un ensemble d'acteurs et c'est plein de canaux différents. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent privé mené par des investisseurs professionnels qui se dirigent vers les climate tech en général. Donc des entreprises qui vont aider à produire mieux des renouvelables ou de l'énergie nucléaire ou d'autres types de ressources, de la géothermie notamment, par exemple, un secteur qu'on a totalement délaissé aussi sur la période. Et donc il y a de plus en plus d'argent privé qui est en train de, évidemment, qui est beaucoup plus efficace quand il est déployé. Et donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. L'Europe a quand même permis, en tout cas par sa massification du renouvelable, et pas que l'Europe, hein, la Californie, un peu aussi la Chine dans les dernières années, ont permis d'abaisser le coût de ces technologies pour des pays qui ne peuvent pas avoir accès au nucléaire civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas avoir accès au nucléaire civil. Heureusement qu'on a fait les efforts d'amélioration des panneaux photovoltaïques pour leur permettre d'avoir accès à l'électricité. Donc il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. On a fait un effort pas tellement pour l'Europe, plutôt pour une contribution pour le reste du monde, mais ça a quand même eu des effets. Sur l'éolien offshore, aujourd'hui, on arrive à des prix sur les côtes britanniques, sur les côtes danoises en mer du Nord, on arrive avec des intermittences qui sont extrêmement faibles, et on a des prix de revient qui sont extrêmement compétitifs. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le sujet, c'est que effectivement, on n'a pas eu une politique européenne stratégique. On a eu des politiques nationales soumises à des intérêts, on l'a dit, particuliers. D'un côté, les Verts allemands, de l'autre côté, les Verts français. Enfin bref, on a eu des politiques éclatées. Ces politiques éclatées, aujourd'hui, nous explosent à la figure parce que les Allemands, qui est effectivement la plus grande puissance économique de l'Europe, a fait un choix qui était de construire une industrie compétitive basée sur du gaz en grande quantité, à peu de frais, gaz russe. Et vous vous souvenez, hein, quand Trump leur avait dit que c'était un pari dangereux et qu'ils avaient explosé de rire à la tribune des Nations Unies. Bon, bah, la vérité, c'est que c'était un pari dangereux. Ce pari, aujourd'hui, se révèle plus que dans une phase critique. Et donc, on va effectivement... Moi, je partage totalement ce qui vient d'être dit. On rentre dans une phase extrêmement compliquée pour la zone euro, puisque là, maintenant, pour l'Europe en global, c'est que les égoïsmes nationaux vont ressurgir de manière extrêmement forte. Et c'est normal. C'est normal quand l'Espagne et le Portugal, qui ont fait des investissements massifs en éolien, qui se retrouvent aujourd'hui en éolien et en solaire, et qui se retrouvent aujourd'hui avec une électricité décarbonée, qui ont un petit peu de gaz qui leur vient d'Algérie, qu'on leur dit ben, grosso modo, il va falloir que tu fermes 15% pour pouvoir aider les Allemands et l'Europe de l'Est, ben, ils disent non, et en même temps, on aura du mal à leur jeter la pierre de dire non. Donc, on voit bien que ça va être très très compliqué de passer cette phase-là, et ça peut être une phase d'accélération de la fragmentation de la zone.
Mais pour poursuivre sur l'Europe, finalement, quand on met bout à bout crise sanitaire, la guerre en Ukraine, finalement, ça se passe chez nous, c'est nous les plus pénalisés. La crise énergétique qui en découle en partie, parce qu'elle n'a pas que ses racines dans la guerre en Ukraine, bah, mine de rien, c'est quand même l'Europe qui est la plus pénalisée. Quand vous avez des États-Unis qui sont quasiment indépendants sur le plan énergétique, on avait déjà beaucoup de retard sur la technologie. Est-ce que finalement on prend un retard à nouveau alors j'ose pas dire décisif, mais est-ce qu'on prend du retard supplémentaire sur des pays qui ne se posent pas les mêmes problèmes démocratiques que nous, comme la Chine, ou sur des pays qui ont des technologies plus poussées que nous, comme les États-Unis?
Alors, de là à dire que l'Europe serait le continent le plus pénalisé, je pense qu'il faut quand même se décentrer.
Ah, c'est encore un peu l'idiot du village global.
On est quand même un continent riche, et quand vous regardez ce qui se passe en Afrique...
Ouais, mais riche, c'est une photo, Fergan, c'est pas un film.
Quand vous allez regarder en Afrique subsaharienne ce qui se passe avec les crises alimentaires qui se profilent en raison, effectivement, de la perturbation des chaînes de valeur et du commerce mondial agricole, bon, je pense qu'il faut quand même relativiser nos problèmes parce que on n'est quand même pas les moins bien lotis. C'est-à-dire qu'il y a pire que nous encore, même si effectivement vous avez raison, ces crises à répétition vont nous faire prendre du retard sur un tas de questions, mais pas seulement l'Europe. Enfin, on est tous interdépendants, donc même s'il y a des pays qui subissent un peu moins ces répercussions que d'autres, la Chine, les États-Unis n'ont pas intérêt à avoir une Europe qui plonge sur le plan industriel, sur le plan technologique. Donc, vous voyez, il y a quand même une interdépendance qui fait que on n'a pas intérêt à ce que l'une ou l'autre des puissances économiques soit affaiblie. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Robin tout à l'heure, parce qu'on ne sera pas d'accord sur ce sujet. Quand il dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense qu'il est important de réfléchir en termes de coût d'opportunité quand on parle d'énergie. C'est-à-dire que moi, je veux bien effectivement admettre que oui, il y a eu des progrès techniques formidables dans l'éolien, le solaire, mais la question qui se pose, c'est à quel résultat on renonce quand on a pris la décision d'investir 1 euro dans telle technologie plutôt qu'une autre. Est-ce que cette réduction des coûts, on l'aurait pas observée de manière plus impressionnante encore si on avait investi cet argent dans la filière la plus efficace aujourd'hui pour décarboner notre économie? Parce que quand vous regardez l'expérience à l'échelle mondiale, les seuls pays qui ont amorcé, qui ont pu amorcer une décarbonation massive de leur industrie sont les pays qui ont déployé de l'hydro et du nucléaire. C'est-à-dire que ce sont là les deux seules sources d'énergie, en tout cas les plus efficaces, pour maintenir un niveau de vie décent pour les populations, tout en décarbonant l'économie. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'on fait bien de continuer à dilapider des sommes dans des industries, dans des sources d'énergie qui ne sont pas les plus efficientes? Et d'ailleurs, quand on lit la littérature écologiste, il faut bien comprendre que les penseurs, les grands théoriciens de l'écologie politique ont toujours assumé que les renouvelables seraient incapables d'alimenter une civilisation développée. Et ils s'en réjouissaient. Parce qu'encore une fois, ce sont des gens... Ah ouais. Ce sont des gens, quand vous lisez par exemple des gens comme Serge Latouche ou Murray Bouchkin, des grandes figures de l'écologie politique, ce qu'ils reprochent essentiellement au nucléaire, c'est son efficacité. En gros, ils disent, le nucléaire, c'est une énergie abondante, donc ça ne va pas forcer les sociétés humaines à devenir plus sobres, à devenir plus en phase avec l'état de nature. Donc il y a une espèce de vision rousseauiste de la société qui consiste à rejeter par principe les énergies les plus abondantes parce qu'on ne fait pas confiance dans la capacité des sociétés modernes à en faire bon usage. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de ces gens-là déployant nos ressources dans des sources d'énergie qui, on le voit bien aujourd'hui, nous mènent vers le rationnement, puisque c'est bien ça dont il est question aujourd'hui. On va se rationner parce qu'on a dilapidé des sommes astronomiques dans une énergie inefficace. Et quand vous parliez de l'Afrique, aujourd'hui, vous avez beaucoup de dirigeants qui, au contraire, pestent contre les énergies renouvelables, comme le président ougandais qui a récemment tenu une tribune d'en France pour dire « mais nous, on en a marre d'être assignés à des panneaux solaires et à des éoliennes qui ne nous permettent pas d'alimenter des grands complexes hospitaliers, industriels. On veut aussi une source d'énergie abondante. » Et on est en droit, enfin, ils sont en droit de le réclamer.
Serge Latouche, dont on vient de rééditer en format poche la théorie de la décroissance. Alors, si vous voulez lire de la théorie de la décroissance, autant aller à la vraie première bonne source. Voilà, c'est dit. Un petit mot quand même pour finir, messieurs, sur l'annonce d'Amazon qui va augmenter le prix de son abonnement Prime de 43%, donc grosso modo on va passer de 49 à l'année à 69%, à 69 euros. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un aveu de faiblesse ou bien est-ce qu'au contraire c'est un signe de puissance? C'est-à-dire qu'en gros c'est maintenant, brave consommateur, une fois que vous pouvez plus vous passer de mon Amazon Prime que je vous ai offert quasiment, maintenant vous allez payer beaucoup plus cher, ou bien est-ce que Amazon a vraiment des difficultés financières? Robin Rivaton.
Si vous me permettez de faire un lien entre le sujet précédent et celui-ci, il y a un lien évident, c'est que l'Europe est quand même un continent qui devient de plus en plus un continent de consommation, alors qui est masqué par cette superpuissance qui est l'Allemagne et qui a vraiment spécialisé son modèle, mais encore une fois, comme on l'a dit, sur une base extrêmement fragile. Mais le reste du continent est perçu, notamment depuis les États-Unis et même la Chine, comme un continent dont on extrait de la richesse. Fergan disait ces deux blocs n'ont pas intérêt à ce que l'Europe s'effondre, c'est certain, mais ils ont tout intérêt à pouvoir en extraire le plus de valeur possible. Et aujourd'hui, alors encore une fois, on est masqué par ce fait que on a une puissance exportatrice au milieu qui génère un surplus commercial, et donc on se dit, en fait l'Europe génère un surplus commercial par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Et donc en réalité, se porte très bien. Mais non, parce que les déterminants de très long terme ne sont pas orientés là-dedans. Aujourd'hui, on est sur cette spécialisation manufacturière. Demain, on voit bien que sur toutes les industries où on peut extraire de la valeur, et le numérique a cette capacité incroyable à pouvoir extraire de la valeur très très rapidement. Et donc l'exemple d'Amazon en est la meilleure preuve. On commence petit, on offre un service qui est très spécialisé, et puis tout d'un coup, on est plus large, on commence à augmenter ses prix, on a une capacité d'un pricing power avec le numérique qui est très très fort. La capacité des consommateurs à trouver des solutions alternatives est extrêmement limitée. C'est quoi la solution alternative? C'est de prendre un abonnement sur le streaming du service de télé français, du service public.
Il y a pas mal de concurrence.
C'est quoi les concurrences? C'est Apple
TV
européen.
Il y a le piratage.
Non, mais c'est quoi Apple TV européen, Hulu européen, HBO européen, Disney Plus européen? Non, il n'y en a aucun des ceux qui sont européens.
On a oublié Salto.
Netflix, pardon. Donc voilà, on a nos petits bijoux nationaux à nous. Donc on voit bien que la réalité, c'est que on est de plus en plus dans une position d'infériorité, et ce pricing power, cette capacité à augmenter très fortement ses prix, c'est le propre du numérique.
André Lescroc Pietri.
On parlait au début du fait que les crises étaient une opportunité. Moi, je reste quand même fondamentalement optimiste quand je vois ce genre de décision par Amazon. Évidemment, c'est une manifestation de puissance. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Robin, mais ça montre bien d'abord qu'il y a des économies d'échelle dans le numérique pour les fournisseurs de services et de logiciels, mais il n'y en a pas pour les clients. Donc, quand aujourd'hui on parle du sujet du cloud souverain et de l'indépendance, notamment par rapport à la maîtrise des données, on se rend compte aujourd'hui que quand on est dépendant de ces géants-là, en plus, on va avoir des coûts qui vont devenir absolument astronomiques. C'est-à-dire, ils vont pas du tout se réduire. Il y a ce qu'on appelle le vendor lock, et en plus, on est coincé parce qu'on est tellement habitué à un service qu'on va pas en sortir. Ouais. Après, il y a le pragmatisme et l'agilité d'Amazon, les prix, les coûts aujourd'hui des livreurs, des gens qui travaillent dans les entrepôts logistiques ont doublé aux États-Unis dans les 12.
Oui, c'est ça. Un des arguments, c'est de dire attendez,
les coûts d'exploitation.
Nous, on fait de la logistique, le carton, le transport.
Donc, ils utilisent de manière très, très opportuniste, avec un vrai argument en disant nos coûts ont augmenté, donc on va le transférer aux clients. Après, moi, je reste fondamentalement optimiste. Je pense que je crois que la France et l'Europe a cette capacité à se dire, ben voilà, cette crise, utilisons-la pour véritablement se projeter dans le coup d'après, qui est quand même le monde décarboné. Il faut quand même pas oublier les incendies.
Romain l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit à chaque crise.
C'est sûr.
Et à chaque crise, ça n'a été que des occasions manquées.
Mais je pense qu'il faut rester fondamentalement optimiste, parce que sinon, effectivement, on peut tout de suite se recoucher le matin. Mais je pense que là, pour le coup,
du 45e étage. Et qui, en passant devant le 20e, se dit jusque-là tout va bien. En passant devant le 10e, se dit jusque-là tout va bien. La question, c'est à quel étage on est en train de passer.
La grande différence d'aujourd'hui, c'est qu'on a encore ce ressort humain. Ouais. Oui, peut-être sur le long terme, l'éducation ne donne pas des bons signes, mais on a ce ressort humain qui ne va plus en Chine et qui probablement va un petit peu moins aux États-Unis qu'avant. Donc il est encore chez nous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est libérer les énergies pour qu'ils nous projettent dans le monde après.
Oui, c'est le commerce entre amis, comme disait Jeannette Yellen. Fergan, pour terminer, Amazon, est-ce que c'est pas aussi la crainte que ce qui est le principal business d'Amazon, à savoir le cloud et les services informatiques, s'il y a une récession, je crois qu'il y a aussi des prévisions de recettes publicitaires moins importantes pour les GAFAM. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il y a derrière cette hausse
de prix? Peut-être. Aujourd'hui, Amazon justifie son augmentation de prix avec deux arguments. Premièrement, la hausse des coûts d'exploitation, la main-d'œuvre, le transport, l'énergie. Prime, c'est essentiellement de la livraison. C'est le streaming, c'est une activité qui a été ajoutée. Après, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais c'est d'abord la livraison. Donc, c'est vrai que les coûts de transport ont augmenté, on ne peut pas vraiment dire que là-dessus, ils mentent. Après, est-ce que le client va accepter cette augmentation de prix? Vous savez, la grande différence, on a beaucoup parlé de la redevance audiovisuelle avec France Télé. Bon, la différence, c'est que là, pour se désabonner de Prime, c'est très facile, c'est un clic. Donc, on verra. C'est-à-dire que, ou bien le pari d'Amazon est gagnant, puisque eux, en effet, sont partis du principe que cette augmentation de prix aux États-Unis ne s'est pas traduite par une hémorragie de consommateurs. Il n'y a pas eu beaucoup de.
Ça a donné un coup d'arrêt quand même.
C'est possible, mais dans ce cas-là, effectivement, ils le font à leurs risques et périls. Maintenant, c'est le consommateur final qui jugera en dernier ressort, et c'est aussi la beauté, je crois, d'une économie de marché, c'est de pouvoir dire voilà, je suis d'accord avec ta politique tarifaire ou non.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, la beauté de l'économie de marché. Fergan Aziari, merci à vous, merci André Lescroc Pietri, merci Robin Rivaton pour ces experts de haute volée. Nous, on se retrouve demain.